Lizzie présente Juste avant de mourir de S4MN, lu par Laetitia Lefebvre. Pour Star, sur Questor. Poor Kitty Jay, such a beauty castaway. The silent prayer should paint some peace on her grave, but something broke her sleep. Pauvre Kitty Jay, une telle beauté rejetée. Cette prière silencieuse devrait envelopper de paix sa tombe, mais quelque chose a interrompu son sommeil. Kitty Jay, Seth Leckman. Chapitre 1. Ferme Uckerby. Samedi matin. Les cadavres d'oiseaux sont parfaitement alignés. De quoi sont-ils morts? Je l'ignore. Ils ont peut-être été attaqués par un chat, avec cette cruauté caractéristique des félins quand ils ne tuent pas pour se nourrir, mais juste pour le plaisir. Sauf que, à ma connaissance, personne n'a de chat à 2 kilomètres à la ronde. Nous, en tout cas, on n'en a pas. Adam préfère les chiens qui travaillent, chassent et rapportent. Des animaux fidèles. Il me paraît plus probable que ces malheureuses créatures aient été victimes du froid et de la faim. Cet hiver dans le Dartmoor a été particulièrement long et rigoureux. Ces dernières semaines, le gel s'est insinué dans le sol acide, a lancé une offensive sur les arbres noueux, poussé les habitants à se calfeutrer chez eux de cristaux à Taviklov et transformé en patinoire les routes étroites sur la lande. Cette pensée m'arrache un frisson tandis que, mon mug de café à la main, je regarde par la fenêtre de la cuisine. Le verglas met les conducteurs en danger depuis un certain temps déjà. Oui, j'aurais dû être plus prudente. Mais était-ce vraiment ma faute? Je n'ai détourné les yeux qu'un instant, distraite par quelque chose. Puis tout s'est accéléré sur la route sombre longeant le lac artificiel de Burator. Ce n'était qu'une petite plaque de verglas. Pourtant, elle a suffi à me faire dévier de ma trajectoire. Alors que je rentrais chez moi, à une allure d'escargot en cette soirée glaciale de décembre, je me suis brusquement retrouvée au volant d'une voiture devenue folle, à écraser en vain la pédale de frein pour tenter de stopper un dérapage incontrôlable, me précipitant de plus en plus vite vers les eaux proches. Je garde seulement le souvenir d'un étrange et brutal sentiment d'inéluctabilité, comme si tout dans ma vie m'avait préparé à ce moment. Mon décès soudain à 37 ans. Depuis toujours, me semblait-il, il était écrit que ce lac noir se refermerait sur moi, que les portières verrouillées de ma voiture me piégeraient, que le liquide glacé dans mes poumons noirait mon dernier souffle, que je mourrais en ce crépuscule hivernal pareil à tant d'autres, au bord de la lande, à l'endroit où les collines arides et dénudées commencent à descendre vers Plymouth. Pourtant, j'en ai réchappé. Je me suis débattue, j'ai nagé, galvanisée, et j'ai survécu, sans trop savoir comment. Bien sûr, mes souvenirs sont encore épars et fragmentés, mais ils me reviennent peu à peu, et mon corps se remet. Les ecchymoses sur mon visage ont pratiquement disparu. Cet accident, qui aurait pu m'être fatal, ne l'a pas été, et c'est pour moi une bénédiction, qui vient s'ajouter aux autres, auxquelles je me raccroche, et que je ne me lasse pas d'énumérer dans ma tête. D'abord, j'ai un mari que j'aime, Adam Redway. Il m'aime aussi, apparemment, et à 38 ans, il n'a rien perdu de sa séduction. Yeux d'un bleu limpide, cheveux brun foncé, presque noir, mais pas tout à fait. On lui donne parfois 10 ans de moins. Le temps ne semble pas avoir de prise sur lui, malgré la rudesse de son travail, ou peut-être grâce à elle. Si son salaire de ranger du parc national n'est pas mirobolant, il voue une véritable passion à la lande qu'il a vue naître et aux activités qu'il y pratique. Réparer des murets pour que les poneys du Dartmoor ne puissent pas vagabonder trop loin, emmener des groupes d'écoliers admirer les jonquilles de Steps Bridge, servir de guide aux touristes, pour le plaisir, jusqu'en bas de Lidford Gorge, leur faire des frayeurs en leur racontant des anecdotes sur les Gubbins, ces hors-la-loi retranchés dans les grottes de la région au XVIe siècle, qui avaient fini par devenir cannibales et étaient morts ravagés par la consanguinité et la folie. Adam est profondément épris du Dartmoor, de la poésie et de l'aridité de ces paysages, de leur âpreté et de leur singularité. Il a grandi dans ce décor. Et au fil des ans, il m'a peu à peu intégré à son univers. Nous formons un couple heureux, ou du moins plus heureux que d'autres. Oui, notre quotidien est banal, ordinaire, et même prévisible, jusqu'au sexe. Je suis sûre que mes copines de la fac se moqueraient d'une existence aussi routinière, mais moi, je la trouve profondément rassurante. Le monde tourne toujours au même rythme, sans à-coups ni surprises. Je désire et je suis désirée. Si nous n'avons pas souvent fait l'amour depuis l'accident, je ne doute pas que les choses reviendront bientôt à la normale, comme toujours. Quelles sont mes autres raisons de me réjouir d'être en vie ? J'ai besoin de me les répéter pour essayer de mieux supporter certains flashbacks terriblement éprouvants. Je suis sujette à de violents maux de tête qui surviennent à l'improviste, d'une intensité propre à me tirer des gémissements. Dans ces moments-là, j'ai l'impression qu'on me broie le cerveau, qu'on écrase mes nerfs à vif. De fait, je sens naître la douleur en ce moment même. Je grimace, pose mon mug près de l'évier et porte une main à mon front. Mes doigts effleurent l'endroit toujours sensible où j'ai dû percuter le volant avec suffisamment de force pour faire voler en éclats une semaine de souvenirs et les réduire à des fragments épars, semblables à ceux d'une fine pellicule de glace brisée sur un étang de la lande. Je m'oblige à prendre de profondes inspirations. Concentrez-vous sur le positif, m'a recommandé le médecin. Remerciez le ciel tous les jours. Ça favorisera la guérison du corps et de l'esprit. Mon travail, au centre d'accueil du parc national, me plaît, même si je me destinais à devenir archéologue quand je suis sortie diplômée de l'université d'Exeter. Je n'exerce pas le métier dont je rêvais, c'est vrai, mais au moins je rédige les dépliants, je parle d'histoire avec les randonneurs qui partent en excursion pour la journée, et les autorités du parc me laissent participer aux fouilles pendant la saison, creuser la terre à la recherche de vestiges de l'âge du bronze, tels que les tumulus ou les chrysvennes, ces coffres funéraires en pierre contenant des crânes, des fémurs et des épines dorsales datant du néolithique, les restes d'humains qui vivaient sur la lande quand elle était plus chaude et plus sèche, plus accueillante. Mieux, j'adore cette maison en granit que nous louons, perdue sur les hautes terres à 8 km au sud de Princeton. Nos premiers voisins, les Spalding, habitent une ferme à plus d'un kilomètre. Et il faut en parcourir environ 3 pour arriver au hameau le plus proche, avec son pub et sa minuscule épicerie qui vend du jambon sous vide, des briquettes de charbon et pas grand-chose d'autre. J'aime cet isolement au milieu de la nature, l'immensité du ciel étoilé et le profond silence. J'aime les silhouettes rêveuses, arthritiques et couvertes de mousse des sorbiers qui bordent les chemins et que les gens d'ici surnomment « quick beams » ou « witch beams », les arbres qui tremblent ou « arbres des sorcières ». Et j'aime aussi l'histoire de cette région, toute de brutalité, de ténacité et d'obstination. Uckerby était autrefois une vraie ferme, dont il reste des granges et des dépendances en ruines, battues par les pluies du Dartmoor, et où poussent au plus fort de l'été des bleuets et des silènes. Le seul bâtiment encore intact est celui où nous vivons. Une maison tout en longueur, dans le style traditionnel des habitations de la lande, qui a peut-être 600 ans. Elle a dû abriter jadis des familles nombreuses. Les humains d'un côté, les bêtes de l'autre, apportant leur chaleur au premier sous le même chaume du Devonshire. Aujourd'hui, elle a été rénovée. Le toit a été recouvert d'ardoises et l'intérieur modernisé. Oui, elle est humide et difficile à chauffer, mais elle a du caractère. Et c'est mon foyer, où je vis avec Adam et Lila, notre fille, ainsi qu'avec nos deux chiens, Félix et Randall. J'ai trouvé leur nom dans un poème de Gerard Manley Hopkins. J'ai aussi un faible pour la poésie. J'écris parfois des vers que je ne montre jamais à personne. Je cache mes compositions comme ma fille cache ses secrets. J'aurais voulu vivre de ma plume au moins autant que devenir archéologue, mais peu importe, parce que je pense être épanouie et que je suis assurément heureuse ici, auprès de cet homme dont je suis amoureuse et de cet enfant que j'adore.